Alphonse Daudet, Le Petit Chose, première partie, chapitre 10, Les mauvais jours. L'hiver était venu, un hiver sec, terrible et noir, comme il en fait dans ces pays de montagne. Avec leurs grands arbres sans feuilles et leur sol gelé plus dur que la pierre, les cours du collège étaient tristes à voir. On se levait avant le jour, aux lumières. Il faisait froid, de la glace dans les lavabos. Les élèves n'en finissaient plus. La cloche était obligée de les appeler plusieurs fois. « Plus vite, messieurs !» criaient les maîtres en marchant de long en large pour se réchauffer. On formait les rangs en silence, tant bien que mal, et on descendait à travers le grand escalier à peine éclairé et les longs corridors où soufflaient les bises mortelles de l'hiver. Un mauvais hiver pour le petit chose. Je ne travaillais plus. À l'étude, la chaleur malsaine du poêle me faisait dormir. Pendant les classes, trouvant ma mansarde trop froide, je courais m'enfermer au café Barbette et n'en sortais qu'au dernier moment. C'était là maintenant que Roger me donnait ses leçons. La rigueur du temps nous avait chassés de la salle d'armes et nous nous escrimions au milieu du café avec les queues de billard en buvant du punch. Les sous-officiers jugeaient les coups. Tous ces nobles cœurs m'avaient décidément admis dans leur intimité et m'enseignaient chaque jour une nouvelle botte infaillible pour tuer ce pauvre marquis de Bouquaran. Ils m'apprenaient aussi comment on édulcore une absinthe et quand ces messieurs jouaient au billard, c'était moi qui marquais les points. Un mauvais hiver pour le petit chose. Un matin de ce triste hiver, comme j'entrais au café Barbette, j'entends encore le fracas du billard et le ronflement du gros poêle en faïence. Roger vint à moi précipitamment. « Deux mots, monsieur Daniel !» et m'emmena dans la salle du fond d'un air tout à fait mystérieux. Il s'agissait d'une confidence amoureuse. « Vous pensez si j'étais fier de recevoir les confidences d'un homme de cette taille ?» Cela me grandissait toujours un peu. Voici l'histoire. Ce sacripant de maître d'armes avait rencontré par la ville, en un certain endroit qu'il ne pouvait pas nommer, certaines personnes dont il s'était follement épris. Cette personne occupait à Sarlande une situation tellement élevée... Vous m'entendez bien. Tellement extraordinaire que le maître d'armes en était encore à se demander comment il avait osé lever les yeux si haut. Et pourtant, malgré la situation de la personne, « Situation tellement élevée, tellement, etc. » il ne désespérait pas de s'en faire aimer, et même, il croyait le moment venu de lancer quelques déclarations épistolaires. Malheureusement, les maîtres d'armes ne sont pas très adroits aux exercices de la plume. Passe encore s'il ne s'agissait que d'une grisette, mais avec une personne, dans une situation tellement, etc. Ce n'était pas du style de cantine qu'il fallait, et même un bon poète ne serait pas de trop. « Je vois ce que c'est, » dit le petit chose d'un air entendu. « Vous avez besoin qu'on vous trousse quelques poulets galants pour envoyer à la personne, et vous avez songé à moi. »«
Précisément, » répondit le maître d'armes.
« Eh bien, je suis votre homme, et nous commencerons quand vous voudrez. Seulement, pour que nos lettres n'aient pas l'air d'être empruntées au parfait secrétaire, il faudra me donner quelques renseignements sur la personne. » Le maître d'armes regarda autour de lui d'un air méfiant, puis tout bas, il me dit en me fourrant ses moustaches dans l'oreille. « C'est une blonde de Paris. Elle sent bon comme une fleur et s'appelle Cécilia. » Il ne put pas m'en confier davantage à cause de la situation de la personne, situation tellement, etc. Mais ces renseignements me suffisaient et le soir même, pendant l'étude, j'écrivis ma première lettre à la blonde Cécilia. Cette singulière correspondance entre le petit chose et cette mystérieuse personne dura près d'un mois. Pendant un mois, j'écrivis en moyenne deux lettres de passion par jour. De ces lettres, les unes étaient tendres et vaporeuses,
comme le Lamartine d'Elvire, les autres enflammées et rugissantes comme le Mirabeau de Sophie. Il y en avait qui commençaient par ces mots. « Oh, Cécilia, quelquefois sur un rocher sauvage !» et qui finissaient par ceci. « On dit qu'on en meurt, essayons !» Puis, de temps en temps, la muse s'en mêlait. « Oh, ta lèvre ardente, donne-la-moi, donne-la-moi !» Aujourd'hui, j'en parle en riant, mais à l'époque, le petit chose ne riait pas, je vous le jure. Et tout cela se faisait très sérieusement. Quand j'avais terminé une lettre, je la donnais à Roger pour qu'il la recopiât de sa belle écriture de sous-officier. Lui, de son côté, quand il recevait des réponses, car elle répondait, la malheureuse, il me les apportait bien vite et je basais mes opérations là-dessus. Le jeu me plaisait en somme, peut-être même me plaisait-il un peu trop. Cette blonde invisible, parfumée comme un lilas blanc, ne me sortait plus de l'esprit. Par moments, je me figurais que j'écrivais pour mon propre compte. Je remplissais mes lettres de confidences toutes personnelles, de malédictions contre la destinée, contre ces êtres vils et méchants au milieu desquels j'étais obligé de vivre. « Oh, Cécilia, si tu savais comme j'ai besoin de ton amour !» Parfois aussi, quand le grand Roger venait me dire en frisant sa moustache « sa mort, continuez !» J'avais de secrets mouvements de dépit et je pensais en moi-même. Comment peut-elle croire que c'est ce gros réjoui, ce fanfan la tulipe, qui lui écrit ses chefs-d'œuvre de passion et de mélancolie ? Elle le croyait pourtant. Elle le croyait si bien qu'un jour le maître d'armes, triomphant, m'apporta cette réponse qu'il venait de recevoir. « À 9 heures, ce soir, derrière la sous-préfecture. » Est-ce à l'éloquence de mes lettres ou à la longueur de ses moustaches que Roger dut son succès ? Je vous laisse, mesdames, le soin de décider. Toujours est-il que cette nuit-là, dans son dortoir mélancolique, le petit chose eut un sommeil très agité. Il rêva qu'il était grand, qu'il avait des moustaches, et que les dames de Paris, occupant des situations tout à fait extraordinaires, lui donnaient des rendez-vous derrière les sous-préfectures. Le plus comique, c'est que le lendemain, il me fallut écrire une lettre d'action de grâce et remercier Cécilia de tout le bonheur qu'elle m'avait donné. Ange qui a consenti à passer une nuit sur la terre. Cette lettre, je l'avoue, le petit chose l'écrivit avec la rage dans le cœur. Heureusement, la correspondance s'arrêta là et pendant quelque temps, je n'entendis plus parler de Cécilia ni de sa haute situation.